Bonjour, autre radio, autre culture, émission relayée par audiopeople.fr. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Yves Jagé. Bonsoir. Bonjour Yves.
Bonjour, bonsoir.
C'est l'obscurité du studio qui fait cette impression-là. C'est mais non, ça, nous sommes bien dans la journée, nous sommes bien dans la matinée. Je suis fort impressionnée, oui, je peux le dire, de recevoir Yves. Il fait partie de nos grands ingénieurs du son de l'audio française.
Ça, c'est pas facile à assumer, ça. Ça commence...
Ça commence fort, là.
Ouais, ça commence fort.
Alors Yves, je sais que tu es également musicien. Quand tu as commencé, qu'est-ce qui primait d'abord, le son ou la musique ?
La musique. La musique, disons que le son, c'est vraiment, j'y suis venu vraiment par le côté, en premier lieu en fait c'est l'électronique, parce que je suis né vraiment dans un milieu qui était bourré d'électronique comme on dit, c'est-à-dire que mon père hébergeait sa société d'électronique médicale chez moi, donc à la cave, j'ai toujours été entouré d'une dizaine d'ingénieurs électroniciens, et j'ai été très très vite passionné, et à 10 ans, j'avais déjà, 10-12 ans, j'avais des connaissances qui étaient assez sérieuses, je faisais mes circuits imprimés moi-même dans le perchlorure, etc. Donc je suis pas venu au son par la musique, j'y suis venu plutôt par l'électronique. Et en plus de ça, c'est vrai que je suis issu d'une famille de musiciens, ma mère a failli être cantatrice, elle l'a pas été plutôt par le manque de liberté et d'inspiration de mon père, mais elle l'était et dans l'âme, et elle a beaucoup travaillé pour ça. Donc j'ai toujours été élevé dans un milieu musical aussi. Alors j'ai vite dérivé, hein, parce que l'opérette, ça m'a un petit peu gavé très très vite, je dirais. J'en ai tellement entendu que je ne pouvais plus entendre ça. Et moi, du coup, je me suis un peu rebellé par rapport à ça. Donc, je suis très vite tombé dans les musiques un petit peu chaudes de l'époque. Et voilà, quoi. Et du coup, première guitare électrique. Mais tout en gardant ma passion pour l'électronique et tout, j'ai commencé à travailler la guitare, à beaucoup travailler la guitare. J'avais un oncle en plus qui était arrangeur dans le métier, qui s'appelait Yann Konilovic, qui travaillait beaucoup, donc je le voyais de temps en temps, il me poussait vraiment à le faire. Il m'a fait visiter des studios, fait mes premières séances chez Barclay, assister à des séances, et j'étais... C'est là, je pense que c'est grâce à lui que j'ai commencé à voir un peu le lien entre la passion que j'avais pour la guitare, les instruments, et l'électronique qui devenait la passion du son, c'est-à-dire savoir comment modifier la matière et me dire, tiens, c'est franchement sympa là, mais je pense que, entre le micro, le préampli, les EQ, il y a quelque chose à faire et on doit pouvoir s'aborder le signal, donc je vais m'y mettre, quoi. Et donc, j'ai commencé à me passionner pour la matière sonore et puis le trafic en tout genre. Je fabriquais mes amplis de guitare, j'ai fabriqué ma première console. Enfin, tout ça était très lié, quoi, en fait.
Mais tu aurais pu prendre la voie de construire et d'imaginer des appareils plutôt que de devenir ingénieur du son.
Oui, mais en fait, je dirais que le côté purement technique de très très technique et mathématique, l'électronique m'a vite freiné parce que c'est pas ce qui m'intéressait en fait. C'est plutôt le résultat sonore que la façon d'y arriver. Donc j'ai quand même gardé une passion pour l'intérieur et l'âme des appareils, mais ce qui m'intéressait, c'est les effets que ça produisait. Par exemple, moi, les premières Wah-Wah, quand j'ai utilisé ma première Wah-Wah, je l'ai entièrement démontée, entièrement dépouillée, cassée d'ailleurs, évidemment, parce que je voulais comprendre comment on arrivait à faire un truc pareil, quoi. Ce qui m'intéressait, c'est la transformation du son, la façon dont on arrivait à rentrer un son dans une pédale et à ressortir quelque chose de carrément franchement différent. Du coup, je suis plus allé dans ce côté trafic, et c'est pour ça que je pense que j'ai été plus attiré par les métiers de la prise de son, parce que j'ai considéré très vite que ça n'était pas que technique, c'était très artistique, et il y avait une vraie implication des gens dans le résultat final. Et pour moi, c'est vraiment le lien. J'ai toujours, et je le garde toujours, hein, d'ailleurs, pour moi, c'est profondément ça. Hein. Mais il y a les connaissances techniques d'un côté, et je pense que les gens qui font du son font des métiers qui sont purement artistiques. Ce sont des musiciens, ce sont pas on est des musiciens. Enfin, moi, je reste un musicien, en tous les cas. Je le fais d'une façon tout à fait musicale, pas technique. Je ne me pose pas de questions techniques quand j'aborde un mixage ou une prise de son.
quels sont les artistes qui t'ont impressionné, non seulement au niveau musical, je pense dans le rock, mais au niveau prise de son et résultat dans les enregistrements?
Je pense que ce qui m'impressionnait, bon, moi, c'est vrai que je suis... Enfin, ma génération fait, j'ai 50 ans, fait que voilà, j'étais influencé beaucoup par les Beatles, parce que mon frère, qui était un peu plus âgé que moi, lui, il était vraiment issu de ça, mais j'étais un petit peu plus Stone à l'époque que Beatles. J'étais plus Yes après, parce que c'est un groupe qui m'avait fortement impressionné. Et puis, ce qui m'intéressait, en fait, mais après, j'ai adoré à l'époque Fleetwood Mac, les Cream, des tas de choses qui étaient la matière un peu brute. Ce qui m'impressionnait, c'est ça, justement. C'est la façon dont les gens, on sentait que la matière live m'intéressait. C'est-à-dire la matière brute, jouée, livrée telle qu'elle en studio, ça m'a toujours impressionné. C'est-à-dire que, les overdubs, c'est bien, c'est-à-dire aller faire des couches et des couches de guitare, c'est super, mais ce qui m'impressionnait, c'est qu'à l'époque, on mettait une machine en route, ça m'impressionnait parce que je l'avais vu faire, c'est-à-dire que je l'avais vu à Barclay, chez Barclay. J'avais vu des enregistrements qui se faisaient directement en deux pistes, où l'ingénieur du son, ou l'arrangeur, d'imaginer aller faire des superpositions de pistes, il allait pousser les musiciens, il poussait les chaises pour ramener plus ou moins loin sur les plans dans l'espace, dans une prise stéréo, il allait bouger les musiciens et les chaises pour que la couleur changer ça, ça m'avait impressionné qu'on puisse faire le rouge antenne et livrer quelque chose dans le rock, je parle, parce que je le connaissais dans le classique, je l'avais déjà vu. Mais pour moi, c'était super valorisant par rapport à mes parents, par exemple. Mes parents, ils ont toujours dit, oh, ça, c'est pas de la musique ce que tu fais, c'est un loisir. Les gens de la génération de mes parents étaient complètement anti-pop, anti-rock, anti-tout ce qui existait, puisque quelque part, ça avait une espèce de forme rebelle. Et moi, j'ai assisté à des séances de ce genre de groupe-là, et j'étais extrêmement impressionné par, justement, le travail, la précision des gens. Et je me suis dit, mais alors, on n'est pas des manches, quoi. C'est-à-dire que, quelque part, on est considéré comme des musiciens, et on fait de la musique qui est, mine de rien, sophistiquée, nouvelle, et qui nécessite un apprentissage qui est certes autre que celui d'être premier prix de conservatoire, mais qui impliquait les gens. C'est un vrai savoir, quoi. Il y avait une vraie culture de cette musique-là. Et j'étais très impressionné par ça, quoi, par tout ce qui était live et le côté brut de la livraison d'un titre, ça m'a toujours impressionné. Ça m'impressionne toujours.
Alors justement, au niveau live, tu t'es fortement investi dans cette affaire-là, en étant l'ingénieur du son de ces fameux camions aux voyageurs. Et tu as enregistré des groupes hyper célèbres et des chanteurs hyper célèbres, comme le magnifique Zappa, comme Pink Floyd et autres. Est-ce que tu as pu marquer ta patte artistique lors de ces enregistrements en live?
Non. Sincèrement, faut être honnête. Je pense que d'abord, ils ne nous attendent pas pour qu'on leur apprenne quoi que ce soit. Je pense que simplement, ils sont venus chercher le voyageur qui était en l'occurrence le voyageur 2 à l'époque, qui avait une console Neve, qui était conçue avec une vraie acoustique. En tous les cas, on avait essayé de faire quelque chose de très proche d'une cabine de studio et tout, elle avait impressionné les étrangers. Donc je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'ils sont venus nous chercher. Et eux ne peuvent pas dans leur tête, ils ne peuvent pas penser utiliser un outil comme ça sans utiliser ce qu'ils appellent le head technician. En tous les cas, ils savaient que c'est moi qui l'avais conçu. Et j'ai eu des demandes de la part de Sting, de la part de Floyd, dans le sens où ils ont demandé est-ce que ce soit moi qui gère l'opération, comme entre guillemets on appelait ça chef de car, ils appellent ça head technician. Mais évidemment, j'ai aidé et fortement assisté des gens, par exemple en l'occurrence James Guthrie, qui était l'ingénieur de Floyd, parce que c'était les premiers lives qu'il faisait réellement, et quand on fait des stades de 120 000 personnes, c'est extrêmement impressionnant. Et il était tétanisé les premiers concerts, donc à un moment, avec son assistant, on l'a poussé de la console pour en lui disant, tu sais, il va falloir bouger sérieusement, parce qu'il y avait 120 entrées, quatre machines analogiques qui tournaient et transmission directe, enregistrement. Donc voilà, et moi c'est pas quelque chose qui m'impressionnait parce que j'avais déjà fait des grosses salles comme Bercy, j'avais fait déjà beaucoup de Bercy en tant qu'ingé et ingé façade et concepteur des systèmes multidiffusion et tout. Donc j'ai jamais été super impressionnable par la quantité de gens. C'est-à-dire que pour moi, faire un spectacle où il y a 200 personnes et un où il y a 10 000 personnes, c'est exactement la même chose. Donc, mais voilà, je pense que en dehors de ça, bon, alors c'est vrai que ouais, moi, mon credo, c'était vraiment d'assurer une prestation qui les impressionne, parce que c'est vrai que ça m'a toujours choqué la façon dont Outre-Atlantique, le regard qu'ils ont sur les Français m'a toujours un petit peu gêné, il me gêne encore un peu, quoique je pense que ça, les choses ont beaucoup changé. Mais à cette époque-là, il faut savoir que moi j'ai déjà eu des demandes de retour de Telex sur des grosses affaires, hein, comme Pat Metheny ou Frank Zappa, où ils nous demandaient de leur confirmer qu'on avait l'électricité toujours, partout en France, quoi. Donc c'est des choses qui me choquaient énormément, parce que d'un côté, on leur livrait quelque chose qui était à la pointe de la technique et qui n'avait pas. C'est-à-dire que le Voyageur 2, sincèrement, il a été à une époque le fleuron des mobiles, je dirais, largement en Europe. Et il était même assez prisé des Américains. Donc, je pense que pour eux, c'était pas concevable, et ça l'est de plus en plus, hein, parce qu'ils se sont aperçus quand même qu'il y avait la French Touch et des gens qui étaient vraiment capables de faire des choses qui fonctionnaient chez eux. Mais c'est vrai qu'on est un peu brimé par ça en France, on est un peu brimé par le langage. Voilà, on a une langue qui s'exporte pas, on n'exporte pas de musique, hein, ça change, ça fait quand même toute la différence. En revanche, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont parties de chez nous, qui artistiquement ont changé la façon de travailler des gens. Et je pense qu'on on est capable de leur apprendre des choses. Et pour finir là-dessus, je crois que ce qui les a impressionnés, à chaque fois que j'ai travaillé sur une grosse opération comme ça, c'est la polyvalence de ce que les Français savent faire. C'est-à-dire qu'à un moment, aller se servir d'un Pro Tools, positionner les micros, souder... Pour eux, ça n'existe pas, ça, chez eux. C'est beaucoup plus hiérarchisé. Il y a un personnage qui s'occupe, il y a un ingénieur Pro Tools, il y a un type qui s'occupe de la maintenance. Nous, quelque part, à un moment, on est livré à nous-mêmes, on est obligé de tout faire. Moi, dans le Voyageur, je veux dire, il n'y a pas un endroit que je ne connaissais pas, on avait tout fabriqué nous-mêmes.
Je vais être dur, là. Le « nous », est-ce que ce n'est pas la manière de Delon, « nous » étant Yves Jagé?
Ah non, pas du tout. non, certainement pas. Non, je dis « nous » parce que cette entreprise-là ne tenait pas sur moi. Enfin, j'étais associé à Vincent Pitras, j'étais associé... et puis d'autres gens travaillaient pour nous. Donc quand je dis « nous », c'est vraiment... on ne peut pas s'estimer être à la base d'un... Moi, j'ai eu l'idée de monter ça parce que ça me passionnait. Mais après, je veux dire, on n'est pas... on ne peut pas être seul à la base de quelque chose, c'est impossible. Il y a des gens autour et moi j'ai jamais, enfin je ne veux pas tirer par exemple profit du nom du Voyageur en me disant que c'est mon bébé et nous. Alors là justement c'est assez drôle ce que tu me dis parce que j'ai eu cette réflexion là avec quelqu'un sur le forum de mon site qui voilà, je lui ai dit à un moment je ne dis pas il Yves Jagé en disant « il a décrété que », quoi. C'est à un moment pas du tout. Et voilà,
tu n'as pas encore déposé ton nom ?
Bah, sûrement pas. Et puis tu sais, j'ai fait même une introduction sur mon site, dans la page d'accueil, où je démystifie ça. Et quand je dis démystifier, ça m'ennuie aussi d'utiliser ce mot-là, parce que c'est un peu, tu vois, c'est un mot un petit peu fort par rapport à ça. Mais si, c'est un petit peu ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que... Et c'est très français, ça aussi. C'est-à-dire, c'est... ouais, mais bon, Jagé, voilà, il gagne plein d'argent, il est super connu, son studio est booké sans arrêt, etc. Ça marche pas comme ça. On subit exactement les mêmes, voire même plus de pression que certains. Je veux dire, moi, j'estime pas être mieux qu'un autre, moins bien qu'un autre. J'ai des idées qui sont un petit peu arrêtées quelquefois, et pas par rapport à la musique, hein, sûrement pas, parce qu'il faut rester ouvert, mais... C'est vrai que j'ai eu certains coups de gueule et voilà, c'est moi, c'est comme ça. Je suis entier, j'ai pas envie de cacher des idées. Quand je pense quelque chose, je le dis, c'est tout. Pour revenir à un petit peu ce que tu disais, aucune entreprise peut se permettre, et aucun nom, en tous les cas, moi, même mon nom, hein, perso, j'ai eu certaines affaires parce que j'ai travaillé avec certaines personnes aussi. Pas du tout tout seul, enfin, rien ne se fait tout seul. Enfin, si on considère ça dans la musique, c'est qu'on ne sait pas faire de la musique et on n'aime pas la musique parce que la musique, c'est fait pour être partagée. Il y a plein d'acteurs différents dans la musique et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on évolue en fonction de l'ouverture et de sa façon de partager. Plus tu partages, plus tu vas évoluer vite et plus tu vas être, pour moi, performant, parce que la performance, c'est ça, c'est l'ouverture. On a trop tendance en France à mettre des étiquettes, à dire « ouais, mais un tel... » On ne se pose pas la question avec des gens comme Bruce Sweden ou... Tu vois, c'est des gens qui, à 60 ans, ont réussi à faire des albums comme Thriller, quoi. Voilà, c'est juste une ouverture d'esprit et une histoire de culture musicale.
Alors justement, pendant cette période, et on passera à autre chose après, pendant cette période où tu as enregistré ces grands groupes en live, tu dis que tu leur as montré, tu leur as ouvert un peu la porte de ce que c'était que la French Touch. En revanche, toi, est-ce que tu as appris des choses d'eux au niveau musicalité, au niveau spatialisation de la musique ?
Disons que ce qui est sûr, c'est que à l'époque où j'ai fait ces gros groupes-là, sincèrement, il faut leur reconnaître une chose, c'est qu'ils ont quand même quelques longueurs d'avance sur nous, parce que tout simplement parce que la musique aux États-Unis ou en Angleterre, c'est un métier, c'est pas un loisir. Ça a été quand même très longtemps considéré comme un loisir en France, donc tous les métiers qui y étaient rattachés aussi. Moi, mes parents, quand je leur ai dit que je voulais devenir ingénieur du son, pour eux, c'était un... Voilà, oui, mais qu'est-ce que tu veux faire comme métier ? Tu parles en Angleterre de... Enfin, même pour les gens dans la rue, voilà, ils savent que les Beatles, c'est un groupe, que les guitares électriques, c'est un instrument, etc. Parce que peut-être aussi, il y a des gens comme George Martin qui ont vraiment aussi fait que... qui est un musicien extraordinaire, c'est-à-dire qui est un musicien de talent. Les gens se sont peut-être dit, tiens, mais c'est marrant que quand même, des jeunes aux cheveux longs, avec des guitares électriques et des sons pourris, arrivent à se mélanger avec des gens comme George Martin, qui était un arrangeur hors pair et qui avait vraiment des idées dans le classique qui étaient absolument incroyables. Mais tu vois, je m'égare tellement que je ne me rappelle même plus le fil de ta question, tu vois, le fil principal, t'as qu'à voir.
Non, je demandais juste s'il y avait eu un échange de la
part entre échange,
eux et toi.
Un échange, oui, j'en ai eu un avec Sting, par exemple. Parce que, voilà, je suis resté 2 mois et demi avec lui. On vivait dans un château pour faire un album qui s'appelait Soul Cages. Ils étaient, c'était donc avec Hugh Pashdam, le producteur de Police, et qui était son producteur à lui à cette époque-là. Voilà, j'étais considéré comme faisant partie de l'équipe pendant les 2 mois et demi. Et donc, tu te retrouves à table tous les jours avec les gens du staff, et notamment lui, sa femme, les enfants, etc. Donc au bout d'un moment, fatalement, tu crées des liens. C'est quelqu'un qui est... Sa femme parle très bien français, parce qu'elle est à moitié française. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup les Français. Il l'a prouvé, ne serait-ce qu'en jouant, par exemple, avec Manu Katché ou des gens comme ça. Et il a toujours été intéressé par la culture française. Donc, voilà, les échanges se font beaucoup plus vite. Et du coup, je me sentais vachement responsable de quelque chose et considéré. Et du coup, au bout de 3 semaines, je me suis retrouvé dans la piscine, sur son dos, en train de faire des batailles avec Hugh Pashdam. Donc le process n'est pas le même, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont choisi ton engin parce qu'ils avaient besoin de ton engin. Ils t'ont choisi, toi, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour assumer la responsabilité de l'engin. Donc c'est vrai que c'est assez valorisant. Et je n'ai pas ressenti cette attitude « don't call me, I call you », quoi, comme ça se fait régulièrement avec les Américains. C'est-à-dire qu'ils ont cette espèce d'attitude... où faut le reconnaître, ils ont quand même une attitude de supériorité qui est vraiment assez détestable dans le métier. Alors moi, je leur ai mis quelquefois des bonnes petites gifles en live, parce que fatalement, tu te retrouves confronté à des festivals où tu vas arriver avec des consoles super calées, et moi j'ai toujours essayé de rapprocher le travail du live... En tous les cas, en y apportant une qualité vraiment quasi studio, et vraiment en répétant et en calant des consoles, donc en travaillant avec des consoles à mémoire et en proposant un show qui avait vraiment une allure, qui avait vraiment une belle allure. Et c'est vrai que moi, je me suis retrouvé avec sur la même scène que des shows anglais ou américains, et bon, bah, ils se sont quand même posé des questions en fin de show, c'est-à-dire qu'ils nous regardent toujours un petit peu d'un drôle d'œil en début de show, parce qu'on est assez novateur. Quand je dis « on », c'est pareil, hein, je dis pas Yves Jagey, hein, une fois de plus, hein. Je dis plein de gens en France sont novateurs. Tu vois, ça va pour moi de gens comme... et ne serait-ce que des gens comme Dominique Blanc-Francard. Il faut quand même pas oublier que Dominique, par exemple, il a amorcé ça en France. Il a créé pas mal d'événements par rapport à ça au Château d'Hérouville. C'est-à-dire que Château d'Hérouville, il a attiré une clientèle qui était une clientèle internationale. Parce que voilà, c'était le seul studio qui faisait de la publicité à l'étranger. Et que Dominique avait un... Enfin, moi, c'est un mec que j'ai adoré. J'ai été assistant de ce garçon quand j'étais tout gamin. Mais j'ai toujours suivi ce qu'il faisait. Pour moi, il a une vraie patte. C'est un mec qui a un vrai talent. Par exemple, ce qu'il a fait avec Gainsbourg, pour moi, c'est une vraie signature. Il y avait un son de voix, une espèce de grain qui est une vraie signature. Le problème, c'est la quantité, quoi, en fait. Hein. C'est vachement simple. Hein. On peut pas... les Américains, pour 100 produits sortis, des trucs qui sont carrément très forts commercialement et musicalement, nous, on en a un, quoi. Et qu'ils ont à l'échelon national, eux, à l'échelon international. Un album qui vend 8 millions dans le monde, c'est pas la même chose qu'un album qui vend 300, 400 000. Mm-hmm. Donc, fatalement, ils ont cette supériorité. Pourquoi ils se diraient pas, ouais, mais bon, ils savent faire des albums qui vendent 300 000, mais pas des albums qui pèsent 8 millions. Donc, et c'est très dommage, parce que je pense qu'on serait capable de leur apprendre des choses. Parce qu'ils ont pas le... Voilà, c'est tellement... Moi, ce que j'ai vraiment remarqué, que je déteste chez eux, c'est cette hiérarchie. Le fait qu'à un moment, quand, bon, bah voilà, il va y avoir quelque chose à faire dans le Pro Tools, il faut demander à l'ingénieur Pro Tools. Un mec sait pas tout faire. Moi, j'ai déjà repris des... Tu vois, par exemple, je me suis retrouvé en configuration d'assister à quelqu'un qui s'appelle Al Schmitt, que j'aimais beaucoup quand j'étais gamin, parce que j'écoutais des albums de The Heart of Tea, par exemple, de Michael Franks et tout ça. J'aimais beaucoup, à une époque, j'ai adoré Michael Franks. Je me disais, waouh, Al Schmitt et tout, si un jour je peux rencontrer ce mec-là, ben voilà, paf, Jonas m'appelle pour faire le live au Zénith, je fais son live. Al Schmitt arrive à 20h le soir, c'est-à-dire une petite demi-heure avant que le show commence. Moi, j'étais carrément atomisé, quoi. C'est-à-dire que là, j'avais pas calé la console. Pour moi, Al Schmitt, il vient faire le show. Fin. Et pour eux, c'est pas comme ça. Pour eux, lui, il s'est dit, moi, j'arrive, je mets les pieds sous la console est calée et je prends le show, quoi. Mais moi, je l'ai pas vu comme ça parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. On m'a pas dit, tu vas faire le son pour Al Schmitt et Al Schmitt viendra. Voilà. Et donc, du coup, bah, il s'est retrouvé à faire un live quelque part qui n'était pas préparé et qui n'était pas du tout ce qu'attendait Jonas. C'est comme ça que je suis rentré dans le club Jonas à l'époque. C'est-à-dire qu'à un moment, il m'a appelé, il m'a dit « Qu'est-ce que c'est que ce scandale ? J'ai écouté les mises à plat, c'est nul, c'est pas possible, on ne peut pas garder ça. » Je lui ai dit « Bah écoute, excuse-moi Michel, mais t'as fait venir Al Schmitt, voilà, bah, je pense qu'il n'a pas fait le truc comme ça aurait dû se faire, et on a du mal se comprendre là-dessus, et voilà, il aurait fallu que je cale la console, moi j'étais pas préparé à ça non plus. » Voilà, donc on a réenregistré le live, c'est moi qui l'ai enregistré, et puis voilà, bah, du coup c'est moi qui l'ai mixé, pour te dire que ni Al Schmitt ni moi n'étions préparés à savoir que, tu vois, l'un pensait que l'autre était, c'est normal, moi l'assistant, et que j'aurais dû caler toute la console, et moi, me disant, mais bon, c'est Al Schmitt qui vient, c'est lui qui fait le son, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Et ça arrive quand même assez fréquemment dans les studios. Moi, je me suis retrouvé à faire des séances... J'ai fait enregistrer un duo à Metropolis il n'y a pas très longtemps, pour le dernier album de Zazie, avec un jeune talent qui s'appelle Paolo Nutini. On a dû mettre 3h30 chez Metropolis à faire marcher 2 micro-voix. Parce que voilà, il y a une hiérarchie. Les 2 premiers micros qu'ils m'avaient mis, je leur ai demandé 2 micros similaires. Quand tu fais un duo, c'est quand même sympa, pour ne serait-ce qu'à la base, par courtoisie, pour éviter les problèmes d'ego, de mettre les 2 mêmes micros. Voilà, donc j'avais les 2 mêmes micros, mais c'est pas qu'ils sonnaient. J'avais les 2 mêmes micros physiquement, mais par contre, dans les oreilles, si tu veux, voilà, ça sonnait carrément pas pareil. Bon, bah voilà, changement de micro, et ben. Voilà, l'assistant, faut qu'il descende au magasin, faut qu'il fasse une demande en 2 exemplaires pour récupérer 2 mêmes micros, et t'en finis pas. Et les micros marchaient pas, ça buzzait et tout. Je pense que moi, j'ai jamais eu peur d'affronter ces gens-là, dans le sens où j'ai pas peur de ce que je fais, quoi. Je dis pas que je suis sûr de moi, parce qu'il faut, mais j'ai une certaine confiance dans et une certaine expérience en voilà, il faut essayer, oser, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un petit peu avant l'interview, on discutait, il faut savoir oser les choses, et elle m'a beaucoup plu sa phrase, ne pas hésiter, c'est exactement ça, quoi. Moi, je me suis pris des râteaux, entre guillemets, hein, je l'avoue franchement, mais qui n'essaye rien n'a rien, et voilà, c'est, moi j'ai toujours osé des choses, et ben, quand on ose, on arrive, et on a pas peur, enfin moi, c'est, le ridicule ne tue pas, et ça me fait pas peur. Donc à force d'essayer et d'avoir cette philosophie, ça ne me dérange pas d'aller devant un orchestre de 60 musiciens en Angleterre enregistrer, ça ne me fait pas peur, quoi. T'as un petit peu de pression, c'est normal, c'est aussi le fun du métier. Je pense que le fait qu'on maîtrise plusieurs choses en France, et il y a beaucoup de gens qui maîtrisent beaucoup de choses différentes, ça te donne une espèce de, ben voilà, si à un moment t'as un orchestre de 50, t'as un micro qui sonne pas pareil, tu dois être capable de dire stop, on arrête, j'ai un micro qui fonctionne pas, ça met le chantier, et puis voilà, d'aller voir ce qui se passe et de changer de micro, et de déceler très vite la panne, quoi. Quand on connaît l'intérieur, c'est ce qu'on disait aussi précédemment, si tu connais un petit peu, c'est vrai que j'ai cette chance, parce que d'avoir été passionné par l'électronique et d'avoir eu la chance d'évoluer autour de gens qui m'ont appris beaucoup, la technique me fait pas peur, tu vois ce que je veux dire, les équipements, le matériel me fait pas peur du tout, quoi, parce que je sais ce qu'il y a dedans, ça me fait rire, quoi. Ça, bon, voilà, avant de plus marcher un appareil, ça marchait. C'est ma théorie aussi, tu vois. Bon, t'as une panne, et ben faut la vivre. Je pense que le live apprend beaucoup à ce niveau-là, parce que tu te retrouves dans des situations forcément où le matériel étant mobile, il est bien plus fragilisé, et donc tu as des pannes rémanentes qui reviennent assez souvent et que tu as l'habitude de réparer. C'est un peu l'expérience, quoi, en fait. Je vais pas dire que je suis un vieux routard, mais le fait de faire la route, d'avoir fait la route avec des engins comme ça qui mélangent le studio, la sono, fait que voilà, tu as fait un peu le tour des pannes, y compris changer une roue sur un camion, quoi. J'aime ces deux côtés, quoi, technique, rouler les câbles. Enfin, tu vois, je suis à la fois maniaque et c'est vrai que ça va pas être fun tout le temps de travailler avec moi quand on est assistant, mais c'est vrai que je suis maniaque parce que j'aime bien les câbles rouler proprement, et ce que je te disais, j'aime pas quand on les roule autour des coudes et tout. Mais s'il y a une phrase que j'aime bien chez les Américains, c'est when it looks good, it sounds good. Et quelque part, ça commence par là, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, une chambre mal rangée, avec les câbles n'importe comment et tout, bah, si t'as une panne, tu vas mettre 2 heures à la trouver, parce que le temps que tu trouves quel câble où est dans un tas de spaghettis, ça va pas fonctionner. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de rigueur, et même pour faire du son sale, pour faire du son un peu sali et tout, faut être super propre. Faut déjà qu'à la base, ce soit très propre. Après, on peut salir, c'est super facile.
Qu'est-ce qui t'a amené à faire beaucoup plus de studios que du live? Le fait d'ouvrir ton propre studio, qu'est-ce qui t'a amené à ça?
Parce que au bout d'un moment, j'ai fait beaucoup trop, sûrement, de grosses tournées et de gros artistes. Et au bout d'un moment, ça m'a gavé, quoi.
Qui venait de l'artiste,
pression
des managers,
qui vient jamais franchement de l'artiste. Sincèrement, les pressions, elles viennent des productions et de l'entourage de l'artiste. C'est très rare que j'ai bossé pas mal, par exemple, avec Voisine à l'époque, avec Rock Voisine à l'époque où ça fonctionnait bien, et les Canadiens m'avaient dit, ouais, attention, tu sais, t'es le seul Français sur l'histoire, et méfie-toi, tu peux pas aller lui parler dans sa loge, tu peux rien, il faut que t'ailles demander au manager et tout ça. Moi, je leur ai dit, mais voilà, je suis allé voir le manager, je lui ai dit, s'il faut que je frappe à deux portes avant de pouvoir les parler à Rock, je te rends mon pass, quoi, je te rends mon backstage, parce que ça m'intéresse pas, moi, voilà, je suis responsable du son de vent, si j'ai envie d'aller le voir, j'ai envie d'aller le voir, et je frapperai à sa loge à lui, mais je vais pas faire deux loges avant d'aller le voir. Faut démystifier tout ça, et souvent l'entourage met la pression, et c'est pour toutes les grosses stars, c'est pareil. Hallyday, regarde combien de fois, tu vois, c'est un personnage où on dit que ouais, il y a une pression, tout ça, tout est dû à son entourage. Moi, je l'ai rencontré, c'est un mec, c'est un mec extraordinaire. Donc, à un moment, une fois que tu fais un petit peu le ménage et que tu parles directement aux gens, c'est beaucoup plus facile. Mais disons que tout ça m'a un petit peu déplu, et la taille des installations, la difficulté, la complexité des installations. Et puis, ce qui m'a gavé assez vite aussi, c'est dans les très grosses tournées, c'est qu'au bout d'un moment, une fois que tu as conçu le show et que tu as calé ta console et que... Ouais, tu fais 200 fois pareil. Et ça, l'habitude m'a tué, quoi, quelquefois. Ça m'a rendu fou. Parce que, voilà, une fois que ton show il est parti sur la route, ou alors, il faut vraiment que l'ambiance soit au top, quoi. Parce que la tournée, ce qu'on oublie au milieu de tout ça, c'est que t'as la pression des équipes aussi. C'est-à-dire que tu peux tomber sur des tournées. Moi, j'ai vécu des très mauvais moments en tournée. Et si tu vis des mauvais moments au début de tournée, tu vas te les traîner pendant 200 dates et ça va empirer et c'est terrible. Les problèmes relationnels peuvent se dégrader, mais d'une force, ça m'est arrivé, je dirais pas sur quelle tournée, mais de finir entièrement tout seul en voyageant dans ma voiture. C'est en prenant ma voiture, en oubliant le bus et en oubliant tout trajet en commun. Donc ça, c'est pas... Et j'en faisais trop, de toute façon. J'en faisais beaucoup trop, donc au bout d'un moment, voilà, on nous appelait les stars du son, ça devient désagréable, quoi. Ça devient... Et ce qui me plaît beaucoup en studio, c'est le côté créativité. C'est-à-dire qu'il y a une chose que tu n'auras jamais en studio, c'est vrai, c'est le fait de ne pas pouvoir revenir en arrière et d'avoir un forward, un rewind sur la machine. Parce qu'une fois que c'est parti, les lumières s'éteignent. C'est une montée d'adrénaline que tu ne peux pas avoir en studio. Parce que tu l'as quelquefois sur le classique quand les séances sont chères et que tu sais que tu ne vas pas pouvoir en faire deux ou trois d'affilée. Et malgré tout, tu peux en faire deux ou trois d'affilée. Le live, c'est pas comme ça, quoi. Une fois que les lumières s'éteignent, c'est parti et le show il se déroule quoi qu'il advienne. Et ça c'est un truc qui est assez excitant. Mais ça s'estompe relativement vite. C'est-à-dire si tu n'as pas de fun avec l'artiste, pas de fun avec l'équipe, enfin qu'il y a des dissensions dans l'équipe et plus les équipes sont grosses, plus c'est difficile à porter. Au bout d'un moment, en fait, tu détestes les gros trucs, quoi. Et en fait, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Tu vois, on a refait une tournée des petites salles avec sur la dernière tournée d'Asie, mais j'ai adoré. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fout dans les zéniths, quoi. J'ai adoré, quoi. Je me suis dit, mais quelle idiotie de s'attarder aux grosses affaires et aux gros machins dans les zéniths, parce que tu perds tout le côté justement excitant que tu peux avoir dans le live. Les réactivités différentes des gens et du coup du groupe, parce que le groupe est beaucoup plus proche et du coup il réagit différemment. Alors que quand tu fais des grandes salles, des zéniths, tu t'aperçois que tu fais 200 fois le même show. Les gens prennent des habitudes, tu as une espèce de routine qui s'installe parce que tu as cette scission entre le public et le... Et donc tu l'as aussi entre les gens de l'équipe, tu l'as aussi entre... Tu vois ce que je veux dire ? L'avantage du studio, c'est ça, c'est l'instantané, la créativité. Les Américains ont quelques mots intelligents, ils appellent ça la performance, c'est vraiment ça. C'est extrêmement impressionnant, quelquefois. Tu vois, cette espèce d'osmose où tu vas faire jouer 3, 4, 5 mecs en même temps, et où ils vont te livrer un truc, et c'est celle-là la bonne, tu sais que c'est celle-là. Parce qu'il y a une espèce de magie dedans. Et la magie, c'est quoi? C'est qu'à un moment, tout le monde a bougé en même temps. Les sensations sont les mêmes pour tout le monde. Et il y a une espèce d'osmose entre les gens. Ça, c'est un truc qui est vraiment excitant. Et puis, la construction. T'es dans un processus de créativité permanent qui est vachement... qui est passionnant, quoi. Parce que tu fais jamais la même chose. T'es toujours dans un... Tu crées toujours, t'inventes toujours, et il n'y a pas de voix qui se prennent de la même façon. Tu tombes dans des problématiques qui sont sans arrêt différentes, et ça c'est passionnant. C'est très très excitant, en fait.
Est-ce que tu fais des choix dans tes studios par rapport aux artistes, par rapport à des types de musique, des types de musique où tu es complètement imperméable et tu dis non, ça c'est pas pour moi?
Alors du choix artistique, tu veux dire?
Oui,
ça m'est arrivé dans... Oui, sincèrement, oui. C'est, de toute façon, ce que tu fais engendre ce que tu feras un petit peu. Enfin, d'après moi. Hein. C'est-à-dire qu'on est suffisamment à cheval sur les styles en France pour que, de toute façon, on te mette dans une case et que si tu as fait ça, si tu as fait tel artiste, on va t'appeler pour faire tel autre. Ce que je trouve fort dommage, hein, d'ailleurs, hein, parce que ce qui est intéressant, c'est la diversité, justement. Après faire des choix, oui, il y a des choses que j'ai pas voulu faire et où j'ai dit non parce que je me sentais pas de le faire. Maintenant, sincèrement, je t'avoue franchement que ça commence à s'estomper un peu ça, parce que les choix sont quand même de plus en plus restreints. Ça m'est arrivé de faire des choses, bon, j'ai fait des choses pas reluisantes, hein, dans ma vie. Je reconnais que j'ai fait deux saisons de Star Academy. Je regrette pas. Je l'ai pris. Le côté pédagogique de l'histoire m'intéressait au début. Je me suis planté parce que c'était pas ça. Je l'ai fait parce que quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup dans le métier me l'avait demandé, qui s'appelle Caroline Molko. Je ne regrette absolument rien et je ne regrette pas de l'avoir fait. Je suis très content de l'avoir arrêté.
À propos de ces grandes machines, quelle est la part de l'ingénieur du son dans ces grosses machines?
Tout est, de toute façon, enfin, la part de l'ingénieur du son, elle est quasiment ridicule. Les gamins au sein de la Star Academy, ils ne te voient pas comme ça. Eux, on leur fait reluire au travers d'un prime time qui va être vu par entre 7 et 11 millions de personnes. On leur fait croire que ça va être des stars d'un jour et que ça va... Ils vont pouvoir apprendre ce métier-là et qu'ils vont pouvoir... On leur montre tellement la mayonnaise que voilà, ils ne pensent plus qu'au prime time. En fait, que tu t'aperçois dans le château que toi, le studio, la façon dont tu travailles, ce que tu as fait, ce que tu vas faire, mais ils s'en foutent complètement. C'est quelque chose qui ne les intéresse absolument pas. Alors à deux, trois exceptions près, si je te donne les exceptions, tu vas tout de suite comprendre que du coup, ce sont les gens qui ont fait le bon choix. Par exemple, tu vois, avec Olivia Ruiz, moi à l'époque, on avait discuté, je lui ai dit, t'es pas à la bonne place. Elle m'a dit, non, je le sais, mais bon, voilà. Moi, je cherchais vraiment à... Je pensais pas que je tomberais là où je suis tombé. Et moi, je veux faire de la musique, je suis passionné, etc. Et moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, de toute façon, ne gagne surtout pas et tu feras de toute façon quelque chose. Et elle a eu l'intelligence d'attendre et de faire ce qu'elle aimait profondément et d'y croire profondément. Et ben voilà, le résultat, elle reste quand même... elle fait quelque chose d'extrêmement, je trouve, marginal. Elle a réussi en faisant quelque chose de vraiment marginal à vendre plus de 700 000 albums. Donc ça, je trouve que c'est une belle récompense.
Oui,
mais après, le reste, nous, on est des pantins. Mais même vis-à-vis de... Tu sais, je pense qu'on en est venu à un point où même la maison de disques est un pantin dans Star Academy. C'est le pantin dans Démol. C'est la télévision qui tient les rênes. Donc il y a plus de décisions artistiques qui viennent de la maison de disques. Tout vient du média porteur qu'est la télévision. Donc, il n'y a pas de notion artistique. Là, on cherche à construire un scénario où, tu vois, le casting n'est pas assez sévère de toute façon pour aller prendre des gens qui ont un vrai charisme et une vraie originalité qui a vraiment un... Parce que bien chanter, c'est facile. Avoir un vrai quelque chose de plus... Parce que bien chanter, voilà, t'es choriste, mâle ou femelle, hein, mais voilà, un choriste chante bien. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais eu peut-être la personnalité, le petit truc qui fait que ça déraille et qui fait que les gens se disent waouh, ça c'est vraiment, il se passe un truc, il se passe quelque chose. Donc c'est pas bien chanter qui est important, c'est avoir quelque chose à dire et mettre le frisson quand on rentre quelque part. Ça s'apprend pas, c'est. C'est quelque chose qui est... dans tous les cas, ça ne s'apprend pas dans une école comme Star Academy, ça c'est sûr. Ça se saurait, quoi. Je pense que, tu vois, d'un point de vue purement qualitatif, des émissions comme La Nouvelle Star sont beaucoup plus sévères au niveau du casting. Donc, ils en tirent leur épingle du jeu parce que les gens, les concurrents, ont une vraie valeur artistique. Tu as un jury qui est un vrai jury. Tu vois, avec des gens de valeur, avec des gens comme Manu Katché, Manoukian, et qu'à un moment, s'il faut qu'ils les sabrent, ils les sabrent. L'émission de Star Academy, c'est on sabre par derrière, c'est-à-dire qu'on fabrique un scénario au jour le jour pour essayer de faire en sorte qu'il se passe quelque chose au milieu des 16 gamins qui, eux, a priori, sont venus. Mais bon, ils ne sont pas dupes, hein. Ça fait bien longtemps que les deux premières étaient, je dirais, entre guillemets, fun. C'est-à-dire qu'il se passait quelque chose parce que les gamins n'étaient pas au courant. Tout était construit au fur et à mesure. Mais après, tout se sait très vite. Donc après, il n'y avait plus de secrets, plus rien. Et donc,
c'est une sorte de comédie de la part des jeunes qui s'installent aussi.
Une comédie totale. Et puis voilà. Et puis le problème, c'est que sincèrement, ils se la pètent, quoi. C'est-à-dire qu'il faut arrêter le délire, quoi. Je pense que je suis atterré quand je croise des gamins de la Starac. En temps réel, quoi. Quand je bossais avec eux, mais quelquefois ils étaient plus sur terre parce qu'on les met plus sur terre. C'est le dialogue, c'est le discours des gens qu'encadrent ces gamins, c'est les pousser voilà, médiatisation à outrance, et vous êtes des stars, et on va faire de vous des stars, et tout ça, c'est du pipeau, quoi. C'est, ça veut rien dire. D'ailleurs, on remarque absolument que une fois que la Star Academy est finie, que l'émission est terminée, et que la tournée est finie, les tournées, si on peut appeler ça encore des tournées, et puis il n'y a plus rien de live, etc. Une fois que la maison de disque en démolle, les tourneurs ont lâché les ficelles, il n'y a plus personne. Hein. Les gamins, ils font les Leclerc. Voilà, ils font la tournée des Leclerc, hein. Donc on ne fabrique pas des artistes comme ça, quoi. C'est pas possible. Et le problème, c'est qu'on a vendu ça aux gens et on fait croire aux gens. Donc je trouve qu'en dehors de discréditer la musique en France, c'est tout ce qu'on a réussi à faire. On a anéanti le marché du disque avec des émissions comme ça. On fait croire aux gens que, de toute façon, n'importe quel clampin dans la rue peut faire ça. Et donc, ça ridiculise nos jobs aussi. Hein. Ça entraîne tout le monde hein, là-dedans. Et les gens qui sont les stars au milieu de tout ça, bah, c'est une fois de plus les présentateurs et les gens qui fabriquent ces émissions. C'est-à-dire qu'à un moment, quand pour moi, hein, je m'excuse de le dire, mais quand je regarde Star Academy, j'ai l'impression de voir la piste aux étoiles, quoi.
Oh non,
oui, c'est bien pire. Étoiles, oui, parce que c'est vrai que la piste aux étoiles, excuse-moi, c'est vrai. La piste aux étoiles, c'était une émission de qualité, quoi. C'est ça le pire.
Oui, et puis les artistes de pire qui étaient quand même autrement plus valables.
Talentueux, bien sûr. Non, mais d'accord, c'est une très mauvaise comparaison. Mais c'est un cirque, tu vois ce que je veux dire. C'est un capharnaüm avec, je m'excuse, mais je trouve un niveau de culture musicale qui est tellement atterrant. Moi, je suis vert, quoi, que ça perdure et qu'on arrive en tous les cas, à faire croire aux gens et aux gamins qu'ils vont devenir quelqu'un demain, quoi. Ça marche pas comme ça, c'est sûr. Et je pense que les gens sont pas dupes.
Les gens sont de moins en moins dupes, puisqu'on s'est aperçu que l'audience, par exemple, de Star Academy baissait d'année en année.
Bien sûr.
Et que cette année, bon, ça n'a pas encore été catastrophique, mais... ça a quand même bien baissé. Et lorsqu'ils ont fait un sondage dernièrement sur un site internet en demandant est-ce que vous voulez qu'il y ait une Star Academy l'année prochaine, il y a 75% des gens qui ont dit surtout pas, arrêtons les dégâts.
Quoi. Bien sûr.
Et ce qui m'avait étonné dans ce genre d'émission, par exemple par rapport à Taratata, à Nouvelle Star, Star Academy, c'était le son. J'ai toujours énormément critiqué, et puis même par rapport à d'autres émissions variétés de la télévision, j'ai toujours énormément critiqué le son. Le son tel qu'il est envisagé actuellement au niveau des télévisions, mais que l'on voit également au niveau des radios. Alors j'en parle, c'est quelque chose de très récurrent chez moi, mais parce que c'est quelque chose qui m'énerve de plus en plus. On s'aperçoit qu'il y a une baisse de la qualité des enregistrements au niveau de la télévision. Ne serait-ce que des bêtes d'émissions comme l'arrivée de 500 choristes, où on ne les entend pas. c'est assez faramineux. On a 500 choristes avec un orchestre sur scène, on entend le chanteur principal et on entend une voix derrière qui représente les 500 choristes, mais en fait, on ne les entend pas. On n'entend pas la moitié des instruments, on n'entend pas de spatialisation. À quoi c'est dû
Tu décris ça pour, par exemple, trois émissions. Tu dis Taratata, Star Academy et La Nouvelle Star. Tu mets Taratata dans le lot, par exemple. C'est-à-dire que, par exemple, tu trouves que...
Ça dépend des moments pour Taratata. Non, je parle d'autres émissions de variété. Je trouve que La Nouvelle Star fait plus de recherches au niveau du
Absolument.
Son.
Absolument. C'est incroyable. Je suis carrément, franchement, d'accord avec toi. Mmh. Je vais t'expliquer. Il y a deux raisons à ça, déjà. Nouvelle Star, par exemple, c'est géré par tout ce qui est musique. C'est un type qui s'appelle Olivier Schultes qui s'en occupe.
Oui. Mmh.
Olivier, c'est quand même un très bon arrangeur, hein, qui a fait beaucoup de choses en France. Bon, issu d'une famille, tu vois, on ne peut plus musicien, évidemment, parce que Jean, son père, était un percussionniste extraordinaire, et son autre fils, Julien, alors lui, il est multi-instrumentiste aussi, il joue du piano, de la batterie, il chante, bon, bref. Grosse famille de musiciens. Et voilà, c'est géré par un vrai musicien et quelqu'un qui prête énormément d'attention à ça. Donc, et c'est lui qui en a l'entière responsabilité. Donc, dès l'instant où tu laisses un musicien gérer une émission de musique, quelque part, normalement, si tu veux, tu vas avoir un résultat, tu vois, plus que correct, hein, parce que il sait s'entourer de gens. Mais par exemple, Olivier est derrière une console. Lui, il s'occupe d'une des deux consoles. Donc, si tu veux, ça s'entend parce que voilà, il s'est entouré de gens qui travaillent plus qu'au bien aux consoles. Et je l'ai noté, hein, ce que tu dis. Hein. J'ai J'ai même, je m'excuse pour Patrice, hein, c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais j'ai entendu des émissions de La Nouvelle Star sonner mieux que Taratata, sincèrement.
Oui, tout à fait, oui.
Alors après, bon, tu connais comme moi, c'est assez compliqué, le process des émissions et de la diffusion en télévision est quand même très sophistiqué. Donc, quelquefois, tu as du surprocessing sur certaines émissions et tu en as beaucoup moins sur d'autres qui font que le surprocessing, tu le processes. Hein, donc, de toute façon, tu vois, à un moment, plus tu vas chercher... je pense que, par exemple, si tu veux, la grosse différence qui pourrait y avoir entre La Nouvelle Star et Taratata, c'est que t'en as une qui est quand même, faut pas l'oublier, mixée en 5-1 et réduite, tu vois, par... alors après, le process, tu vois, final, je peux pas te dire exactement lequel c'est, mais à la base, faut quand même pas oublier que c'est du 5-1, je dirais, adapté à la diffusion en stéréo et compagnie. Je sais pas exactement quel process ils utilisent, mais la base est ça. C'est-à-dire que la base, c'est la multidiffusion, c'est la... tout à l'honneur de Nagui, parce que si tu veux, on peut pas retirer ça. De toute façon, hein, je dénigre pas le son de l'émission Taratata, parce que j'ai grand respect pour Edune, cette émission, et de deux, Patrice, parce que voilà, il a quand même fait des choses, il a fait remuer les choses en France, en tous les cas, en ce qui concerne la sono et justement ce type d'émission. Et Nagui est quand même un. Si ce genre d'émission existe, c'est aussi parce que ce sont des gens qui mettent le son en avant et l'image évidemment. C'est-à-dire que mais ce sont des vraies émissions musicales avec un mec qui a une vraie culture musicale et qui est voilà un vrai plateau. C'est une émission qui a une réputation absolument internationale. C'est-à-dire que tu peux parler de Taratata, un Américain, un Anglais, ils en parlent en disant que c'est une émission qui est bien mieux gérée que leurs propres émissions aux États-Unis et que pour eux c'est une émission de classe internationale et une très grosse émission. Ils ont un profond respect pour Nagui. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup de différences dans le process et dans la façon dont ils vont le traiter. Et je reconnais que, quelquefois, le côté moins processé, moins perfectionniste, dans enfin non, pas perfectionniste, parce que justement, Olivier est un perfectionniste, Schultes. Mais moins, je sais pas, compressé, un petit peu plus, voilà, au feeling de La Nouvelle Star, fait que quelquefois, moi, ils m'ont mis des gifles. Hein. Et tu sais, je l'ai appelé, pourtant, bon, on a eu des différends avec Olivier, mais moi, il m'est arrivé plusieurs fois de l'appeler en lui disant, écoute, sincèrement, voilà quoi, je suis pas tout le temps d'accord avec toi, mais par contre, voilà, je te félicite parce que le son de cette émission, c'est écœurant, ça marche franchement bien. Ça m'a toujours impressionné. Il y en a une autre à l'époque qui m'impressionnait, c'était Nulle Part Ailleurs. Parce qu'à l'époque où il y avait l'orchestre et le groupe, Canal+, tu vois, ils avaient quand même l'art de je peux te dire que pour arriver à avoir le genre de son, la dynamique qu'ils arrivaient à avoir, la spatialisation à l'époque où il y avait le groupe dans Canal, là, sur cette émission-là, bah, je veux dire, il fallait sortir enfin, il fallait avoir beaucoup d'expérience et vraiment, il fallait avoir du suivi dans le processing. Le problème de la télé, c'est que tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu vois, tu auras beau mixer sublimement bien, si tu ne suis pas le process jusqu'au bout, il va t'arriver des ennuis, quoi. Ça, c'est clair.
Il y a une petite émission dont on ne parle jamais dans les revues, nulle part. Alors, je ne sais pas si sur Arte ou TV5, c'est l'émission musicale qui s'appelle Acoustique.
Ouais.
Que par moment, j'ai écouté. Ce n'est pas une émission que j'écoute tout le temps, parce qu'elle passe à des heures que moi... je ne peux pas, mais j'ai par moments été fascinée par la qualité du son de cette petite émission, où on avait vraiment l'impression d'avoir l'artiste avec soi.
J'y prêterai attention, sincèrement.
Je dis pas que c'est pareil pour toutes les émissions, mais j'en ai écouté deux ou trois et j'étais agréablement surprise.
Mais oui, mais de toute façon, je pense qu'à un moment, voilà, il y a des gens qui sont. Il y a quand même plein de gens nouveaux et de jeunes qui ont fait remuer aussi les choses un petit peu là-dedans. Donc c'est normal que ça bouge et que quelquefois on tombe sur des émissions et tu vas regarder qui l'a fait. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément connu et pas forcément. Mais voilà, ce sont des gens qui ont envie de faire bouger les choses, qui ont une profonde passion pour ce qu'ils font et donc qui essayent d'aller le plus loin possible. Tu ne peux pas faire sonner une émission comme Star Academy quand les acteurs majeurs sont Kamel Wally, Nikos Aliagas, et tu comprends, c'est eux l'émission, c'est la chorégraphie. Le starisme du présentateur et le reste, si tu veux, le groupe, pauvre groupe qui est perché là-haut et tout, mais ils en ont personne. Tout le monde s'en fout, quoi. Tu vois, ça n'intéresse personne, quoi. C'est les voix bien dégagées autour des oreilles, tu vois, devant le groupe, on n'en parle pas. C'est une émission où il y a quand même des problèmes techniques quand même assez fréquents. Enfin, il y en a eu un paquet. Moi, j'en ai vu un paquet, en tous les cas. Voilà, et de toute façon, au mix final, c'est jamais la personne qui fait le son qui décide. Donc, celui qui a les ambiances, le mec qui est au mix final et tout, c'est toujours de l'ambiance à outrance. Enfin, tu vois, c'est du harcèlement. Ce sont des émissions, j'appelle ça du harcèlement, moi. Ça me fait exactement la même sensation quand tu passes, quand tu zappes rapidement sur une radio comme Énergie. Tu peux pas, prétendre, vouloir faire une radio musicale quand t'écoutes ce genre de radio-là qui tourne sur des playlists de 80 titres par semaine, quoi, tu vois. C'est du harcèlement.
Alors justement, on va revenir à ce fameux son radio. Tu n'es pas étonné que beaucoup de studios actuellement s'amusent à mixer, sont obligés, je dirais, de mixer pour que les titres de musique puissent passer à la radio. Donc on compresse énormément de telle manière que le titre, une fois mixé, soit exactement celui qui va passer à la radio avec tout à fait le même son. Ça te gêne pas, ce genre de...
Si, mais ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Moi, j'avais même été contacté il y a 8 ans exactement, j'avais été contacté par Europe 2 pour travailler sur le concept sonore final de la chaîne. C'est quelque chose qui existe en radio. On sait très bien que le processing de traitement de signal en radio est extrêmement sophistiqué. Tout ça parce que la course au niveau a fait qu'on en est venu on en est à des marges de dynamique qui dépassent pas 1 à 2 dB. Donc de toute façon, t'es bien obligé de processer. Le processing est tellement radical que moi, il y a des morceaux que j'ai jamais reconnus, moi, en les écoutant à la radio. Hein. Des morceaux que j'ai mixés, c'est pas possible, quoi. C'est pas ça, quoi. Mais si, le process, ils veulent tous avoir une couleur différente. Ils ont tous des sentinelles. Moi, je me rappelle très bien de ça. Tu vas dans n'importe quelle radio, ils ont ce qu'ils appellent des sentinelles pour voir et scanner toutes les autres radios et regarder dans quelle marge de dynamique ils arrivent à tenir et s'ils n'ont pas gagné 0,5 dB. Donc, si tu veux, c'est comme le mastering. La course, c'est plus musical ce qu'on fait. Ça n'a plus rien à voir avec la musique. Les mastering sonnaient 10 fois mieux il y a 15 ans que ce qu'on peut faire maintenant. Mais la donne a changé. C'est-à-dire que c'est une course à voilà, c'est du pur commerce. C'est-à-dire qu'à un moment, on pense que si on n'a pas la dynamique de celui d'à côté, on ne vendra pas. Et quelque part, malheureusement, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, une radio comme Énergie, si tu n'es pas dans les derniers tranchements, tu vois, des derniers bits du signal, ton titre, il ne va pas passer, il ne va pas faire le poids à côté des autres. Donc, tu vas avoir l'air de quoi ? Donc, si tu veux, ça commence par les maisons de disques. Quand tu apportes un titre masterisé en essayant de gagner, en essayant de conserver un minimum de dynamique pour conserver un minimum de musicalité sur un titre, tu l'apportes à la maison de disques, ils te disent oh « Ouais, mais non, faut me le refaire, les gars, ça va pas, quoi. » Tu vas rajouter 3 dB, ils vont te dire « Bah, tu vois, quand tu veux... » Tout le monde va dans ce sens-là. Dans les radios, c'est exactement pareil. Donc, si tu veux, le process... Et puis, bon, attention, il faut savoir aussi que t'as quand même de plus en plus de titres, alors je parle plutôt en musique de jeunes, hein, dans des radios assez jeunes, qui sont assez mixées à la maison, hein, quand même. Donc, tu sais, il n'est pas rare, moi je suis très, très copain avec Rodolphe Plisson, par exemple, qui a une petite boîte de mastering, qui s'appelle AVRM, hein, et qui est un jeune mec qui travaille très bien. Il me dit que, de plus en plus, il a des multipistes à masteriser. C'est-à-dire que les gens, maintenant, lui amène 12 pistes stéréo, 12 stems stéréo, parce qu'ils n'ont pas finalisé le mixage en studio. Ils veulent le finaliser au mastering. Donc, si tu veux, en faisant ça, où va-t-on, quoi, tu vois ? C'est-à-dire que bientôt, alors pourquoi on ne masteriserait pas directement dans les studios, quoi ? C'est-à-dire que lui, il me dit, je ne fais plus mon travail de mastering sur des 2 pistes, je le fais sur 10, 12 stems stéréo parce que le mec n'a pas fait encore ses choix, il pense qu'on peut redonner encore plus de patates et tout ça. Enfin bon, voilà, ça devient du délire, quoi. À un moment, un studio s'est fait aussi, et prendre quelqu'un, réalisateur, ingénieur, parce que très souvent, c'est un métier qui commence à devenir extrêmement lié. Voilà, tu vas dans un endroit et tu prends quelqu'un pour avoir une certaine couleur et essayer de repeindre un peu le... Donc si maintenant tu t'amènes un morceau décomposé en multipiste, alors à ce moment-là, on n'a qu'à venir avec tu vois, un Pro Tools dans les cabines de mastering. À ce moment-là, les radios, de toute façon, par principe, elles adoptent un processus de signature. Il faut qu'elles soient signées. Donc elles ont une signature qui est voilà, souvent des systèmes OptiMode, Eventide, ou des systèmes extrêmement sophistiqués qui permettent d'avoir un process. Moi, j'ai déjà scanné un peu ces appareils-là. Tu as plus de 1500 paramètres. Donc, c'est des outils qui sont extrêmement complexes à régler pour obtenir une couleur. Mais voilà, ils repeignent d'une façon automatique, avec un processing complètement automatisé. Ils repeignent la couleur de la chaîne pour que... Et du coup, tout a la même couleur, c'est normal. À un moment, si tu veux avoir une courbe dans ton mix qui est un petit peu descendante et que tu manques d'aigus, de toute façon, tu as des compandeurs et tu as des expandeurs qui vont faire le contraire et qui vont remonter. Donc, de toute façon, c'est comme tu dis, ça ramène au même niveau tout le monde. C'est-à-dire que ça égalise exactement d'une façon automatique exactement les morceaux de la même façon.
Je vais en revenir, moi, par rapport à ce que j'ai connu quand j'étais adolescente. Moi, j'évitais la radio autrefois parce que je supportais pas les sons qu'il y avait qui étaient excessivement compressés. Lorsqu'il y a eu la libération de la FM, on a eu droit à des tas de petites radios régionales, dont des radios nationales, dont des radios parisiennes, comme par exemple Radio 7. Radio 7, qui était une espèce de petite fille de Radio France, qui se voulait très rock et qui montrait et qui passait des disques avec un son que je trouvais exceptionnel. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai découvert des artistes comme Joe Jackson et compagnie, que j'ai acheté les disques, j'étais fervente. Et je trouve que plus on va dans le temps, il y a plein de radios qui se sont installées sur cette bande FM, qui logiquement auraient pu avoir des sons fabuleux. Et ce que tu viens de dire, on arrive maintenant à des sons qui sont très compressés. On a toujours une espèce de chuintement derrière qui est assez désagréable, ce qui fait que maintenant, je ferme complètement la radio et je l'ai complètement abandonnée. Et malheureusement, Radio France reprend ce système que l'on voit chez Fun Radio et RFM et compagnie. Et...
Bah, ils le reprennent parce qu'ils sont, malheureusement, ils sont liés à la concurrence, si tu veux. Et je pense que le fait d'intégrer des radios comme le Move a amené une nouvelle génération de gens et a amené une nouvelle façon de voir les choses. Et on fait aussi que, si tu veux, ces radios-là, il faut bien qu'elles soient en concurrence, tu vois, avec Oui FM, avec des stations qu'envoient, mais tu vois, un niveau de cheval et qui adoptent exactement le même processing. Tu sais, à un moment, tant que tu n'auras pas l'artistique qui tapera sur la table, comme ça s'est fait un peu aux États-Unis, donc ça s'est beaucoup calmé aux États-Unis, voilà, si à un moment, tu n'as pas des conventions et une association en France intégrant des musiciens, des ingénieurs, tu vois, des gens qui sont multipartistes dans la profession. Bah, si à un moment, tu n'as pas des tours de table en disant, bon, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de massacrer ou on continue la course au massacre? Et voilà, est-ce qu'on ne redescendrait pas d'un ton et qu'on ne réunifierait pas les choses avec des masterings moins violents, un niveau moins violent, puisque de toute façon, on est au maximum de ce que peuvent fournir, en tous les cas, les composants analogiques. Tu vois, à un moment, quand tu es dans les derniers tranchements des outils que tu utilises, tu ne peux pas aller plus loin. Et on sait bien que la radio est tributaire de la HF. À un moment, tu as un émetteur en fin de course et il ne peut pas accepter d'avoir des niveaux qui dépassent. Il faut avoir un contrôle sur les niveaux qui sont des contrôles de l'extrême, dans le sens où à un moment, tu vas faire dériver la HF. Voilà, donc ils ont des contraintes qui sont suffisamment sophistiquées pour forcément avoir à gérer un flux audio très contrôlé, quoi. Moi, si tu veux, par exemple, le processus de mastering, il y a longtemps que j'ai abandonné, quoi, de m'y intéresser. C'est-à-dire, quand on me dit qu'est-ce que tu penses du mastering, machin, je m'en fous. J'y fais même plus attention. Parce que de toute façon, tu sais que tu vas sortir quelque chose de ton studio et de toute façon, on va te livrer de toute façon autre chose. C'est-à-dire que tu vas entendre quelque chose de différent. Et qu'après, quand tu vas à la troisième étape, quand tu vas l'entendre passer en radio et tout, de toute façon, tu vas subir un choc tellement terrible que voilà, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mixer en studio avec le processing radio. C'est ces questions-là quoi, qu'il faut se poser. On n'est pas maître. Les médias sont devenus tellement puissants que de toute façon, on est contraint de subir. On n'est pas en position de force. On est tellement de toute façon pas représenté et pas représentatif en France que c'est difficile de se dire on va aller lutter contre ça. Ce sont les médias porteurs, c'est les radios, sont les radios et les télévisions. Donc à un moment, fatalement, on va pas demander à des gens dont c'est le métier de fabriquer la musique des conseils sur la façon de la finaliser. C'est les gens qui vont être diffuseurs maintenant et qui sont porteurs médiatiquement parlant. Qui sont les acteurs majeurs et qui, eux, décident de comment on va faire. La preuve en est, c'est que pour avoir un titre qui passe sur Énergie, il va falloir que tu fasses de telles concessions qu'ils sont capables de te demander de changer les arrangements. Ce n'est pas qu'ils sont capables, c'est qu'ils le font. Donc voilà, on dire, tu vois, pour qu'un Pascal Nègre, pour qu'un titre de la Starac passe sur l'antenne, on dire, ouais, mais bon, tu vois, là, on a reçu le CD échantillon, c'est pas possible, faut mettre des cuivres, tu vois, faut faire ci, faut faire ça. Et ben, on va te faire remixer le titre de façon à ce qu'il passe sur Énergie. Voilà, t'imagines que nous, en bas de l'échelle, c'est-à-dire, tu vois, ouvrir la porte du studio et faire de la musique, on n'est pas, tu vois, c'est pas qu'on est des pantins, c'est qu'on subit le voilà, on n'est plus. C'est une profession qui est considérée par les gens de la profession dans le bas, mais tu vois, les gens qui sont. Tu vois, Nikos Aliaga, je pense que Yves Jaget, ils sont contre-fous, mais comme tu t'imagines pas, quoi. Ça ne l'intéresse même pas, tu vois ce que je veux dire. C'est, voilà, moi, je ne vais pas aux soirées VIP et tout ça rencontrer ces gens-là. Tu vois, je l'ai fait deux fois et puis ce n'est pas ma came, quoi. Et on me le reproche beaucoup. Hein. C'est devenu c'est devenu quand même extrêmement people, quoi. La classe, c'est pas de travailler bien et faire bien ton travail. T'es chiant quand tu fais bien ton travail. T'es emmerdant parce que, voilà, t'es exigeant, donc on pense que t'es pas tolérant. Moi, c'est vrai que je me dis que, pour moi, le bien faire, c'est le bien-être. Donc voilà, j'y peux pas grand-chose, c'est ma nature, c'est comme ça. Ça fait pas de moi quelqu'un d'emmerdant, mais ça fait de moi quelqu'un qui est. Quand j'ai fini une journée de boulot et que j'ai bossé 12 à 14 heures au studio, j'ai pas envie d'aller voir des gens, tu vois, du people chez Castel, quoi. Ça me branche pas, c'est pas ma came, quoi. C'est pas là que. Et je ne sais pas me vendre dans ce sens-là. Et ce métier est devenu ça maintenant. Si tu veux bosser, il faut te faire voir. Il faut aller te faire voir dans ces soirées-là. Il faut y aller. Moi, j'ai vachement de mal à faire ça. Peut-être, sûrement, j'ai une cote de popularité qui baisse à cause de ça, mais pour moi, l'essentiel n'est pas là, quoi. Donc, comme j'y trouve pas mes sources, j'ai du mal à me forcer même à y aller, quoi.
On va s'arrêter 5 minutes, ouais. Le temps que tu prennes un petit café ou autre chose, et que, avant d'aborder le format SACD 5.1, qui te tenait à cœur, mais qui tenait pas du tout à cœur en maison de disque.
Ah non, ça va, c'est sûr.
Alors, on arrête 5 minutes. Autre radio, autre culture.